témoignage de Joseph Smith, le prophète. Joseph Smith, le prophète, raconte la parution du Livre de Mormon en ces termes. Le soir du 21 septembre 1823, après m'être mis au lit pour la nuit, je commençais à prier et à supplier le Dieu Tout-Puissant. Tandis que j'étais ainsi occupé à invoquer Dieu, je m'aperçus qu'une lumière apparaissait dans ma chambre. Elle s'accrut jusqu'à ce que la chambre fût plus claire qu'à l'heure de midi, et tout à coup un personnage parut à mon chevet. Il se tenait dans les airs, car ses pieds ne touchaient pas le sol. Il était vêtu d'une tunique ample de la plus exquise blancheur, d'une blancheur qui surpassait tout ce que j'avais jamais vu de terrestre, et je ne crois pas que quelque chose de terrestre puisse être rendu aussi extraordinairement blanc et brillant. Il avait les mains nues, les bras aussi, un peu au-dessus des poignets. Il avait également les pieds nus et les jambes aussi, un peu au-dessus des chevilles. La tête et le cou étaient nus également. Je pus découvrir qu'il n'avait d'autres vêtements que cette tunique, celle-ci étant ouverte, de sorte que je pouvais voir sa poitrine. Non seulement sa tunique était extrêmement blanche, mais toute sa personne était glorieuse, au-delà de toute description. Et son visage était véritablement comme l'éclair. La chambre était extraordinairement claire, mais pas aussi brillante que dans le voisinage immédiat de sa personne. D'abord, je fus effrayé de le voir, mais la crainte me quitta bientôt. Il m'appela par mon nom et me dit qu'il était un messager envoyé de la présence de Dieu vers moi et que son nom était Moroni. Que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir, et que mon nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, tribus et langues, et qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples. Il dit qu'il existait, déposé en lieu sûr, un livre écrit sur des plaques d'or, donnant l'histoire des anciens habitants de ce continent, et la source dont ils étaient issus. Il dit aussi qu'il contenait la plénitude de l'Évangile éternel, telle qu'elle avait été donnée par le Sauveur à ses anciens habitants. En outre, que deux pierres contenues dans des arcs d'argent, et ces pierres fixées à un pectoral, constituaient ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim, étaient déposés avec les plaques, et que la possession et l'utilisation de ces pierres étaient ce qui faisait les voyants dans les temps anciens ou passés, et que Dieu les avait préparés en vue de la traduction du livre. Il me dit encore que lorsque j'aurai reçu les plaques dont il avait parlé, car le temps où je les obtiendrai n'était pas encore accompli, je ne devrais les montrer à personne, pas plus que le pectoral avec l'urim et le thummim, sauf à ceux à qui il me serait commandé de les montrer. Si je désobéissais, je serais détruit. Tandis qu'il conversait avec moi au sujet des plaques, une vision s'ouvrit à mon esprit, de sorte que je pus voir le lieu où les plaques étaient déposées, et cela si clairement et si distinctement que je le reconnus quand je m'y rendis. Après cette communication, je vis la lumière qui remplissait la chambre commencer à se rassembler immédiatement autour de la personne de celui qui m'avait parlé, et elle continua à se rapprocher de lui jusqu'à ce que la chambre fût de nouveau laissée dans l'obscurité, sauf juste autour de lui, et tout à coup, je vis comme un passage ouvert directement vers le ciel. Il y monta jusqu'à disparaître entièrement, et la chambre fut de nouveau comme elle l'était avant que cette lumière céleste eût fait son apparition. je méditais dans mon lit sur la singularité de cette scène, très étonné de ce que m'avait dit cet extraordinaire messager. Quand, au milieu de ma méditation, je m'aperçus soudain que ma chambre recommençait à s'éclairer, et, en un instant, pour ainsi dire, le même messager céleste fut de nouveau à mon chevet. Il se mit à me raconter exactement les mêmes choses que lors de sa première visite, sans la moindre variation. Cela fait, il m'annonça, que de grands jugements venaient sur la terre, avec de grandes désolations par la famine, l'épée et la peste, et que ces jugements pénibles s'abattraient sur la terre dans cette génération. Après avoir dit ces choses, il remonta comme auparavant. J'avais maintenant l'esprit si profondément impressionné que le sommeil avait fui mes yeux et que je restais couché, accablé d'étonnement de ce que j'avais vu et entendu tout à la fois. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je vis de nouveau le même messager à mon chevet et l'entendis de nouveau me répéter et me redire les mêmes choses qu'avant. Et il ajouta un avertissement à mon intention, disant que Satan essayerait de me tenter, à cause de l'indigence de la famille de mon père, d'aller chercher les plaques dans le but de m'enrichir. Il me le défendit, me disant que je ne devais avoir d'autres objets en vue en recevant ces plaques que de glorifier Dieu, et ne devait me laisser influencer par aucun autre motif que celui d'édifier son royaume, sinon je ne pourrais les recevoir. Après cette troisième visite, il remonta au ciel comme avant, me laissant de nouveau réfléchir sur l'étrangeté de ce qui venait de m'arriver. À ce moment-là, presque aussitôt après que le messager céleste fut remonté pour la troisième fois, le coq chanta, et je vis que le jour était proche, de sorte que nos entretiens avaient dû remplir toute cette nuit-là. Peu après, je me levai de mon lit et me rendis comme d'habitude aux travaux nécessaires du jour. Mais en tentant de travailler comme les autres fois, je m'aperçus que mes forces étaient si épuisées que j'étais incapable de rien faire. Mon père, qui travaillait avec moi, vit que je n'étais pas bien et me dit de rentrer. Je me mis en route dans l'intention de me diriger vers la maison, mais comme j'essayais de passer la clôture du champ où nous étions, les forces me manquèrent tout à fait. Je tombai impuissant sur le sol et perdis un moment complètement conscience. La première chose dont je me souviens, c'est d'une voix qui me parlait et m'appelait par mon nom. Je levai les yeux et vis le même messager debout au-dessus de ma tête, entouré de lumière comme précédemment. Il me répéta alors tout ce qu'il m'avait dit la nuit d'avant et me commanda d'aller trouver mon père et de lui parler de la vision que j'avais eue et des commandements que j'avais reçus. J'obéis. Je retournai vers mon père dans le champ et lui répétai tout. Il me répondit que cela venait de Dieu, et il me dit d'aller faire ce que le messager me commandait. Je quittai le champ pour me rendre au lieu où le messager m'avait dit que les plaques étaient déposées. Et, grâce à la netteté de la vision que j'avais eue à son sujet, je reconnus le lieu dès que j'y arrivai. Tout près du village de Manchester, dans le comté d'Ontario, New York, je trouve une colline de dimensions considérables, la plus élevée de toutes celles du voisinage. Sur le côté ouest de cette colline, non loin du sommet, sous une pierre de dimensions considérables, se trouvaient les plaques, déposées dans une boîte de pierre. Cette pierre était épaisse et arrondie au milieu de la face supérieure et plus mince vers les bords, de sorte que la partie du milieu en était visible au-dessus du sol, tandis que les bords tout autour étaient recouverts de terre. Ayant enlevé la terre, je me procurai un levier que je glissai sous le bord de la pierre et, d'un petit effort, je la soulevai. Je regardai à l'intérieur et j'y vis, en effet, les plaques, l'urim et le thummim et le pectoral, comme le messager l'avait déclaré. On avait formé la boîte qui les renfermait en assemblant des pierres dans une sorte de ciment. Au fond de la boîte, deux pierres étaient posées perpendiculairement aux côtés de la boîte, et sur ces pierres étaient les plaques et les autres objets. Je fis une tentative pour les sortir, mais le messager me le défendit et m'informa de nouveau que le moment de les faire paraître n'était pas encore arrivé, ni le serait avant 4 années à partir de ce jour-là. Mais il me dit de revenir à cet endroit dans 1 an exactement, et comptant à partir de ce jour qu'il m'y rencontrerait, et de continuer ainsi jusqu'à ce que fût venu le moment d'obtenir les plaques. En conséquence, comme cela m'avait été commandé, j'y allai à la fin de chaque année. J'y trouvai chaque fois le même messager, et j'ai reçu à chacun de nos entretiens des instructions et des informations sur ce que le Seigneur allait faire et sur la manière dont son royaume devait être dirigé dans les derniers jours. Enfin, le moment de recevoir les plaques, l'urim et le thummim et le pectoral arriva. Le 22 septembre 1827, je me rendis, comme d'habitude, à la fin d'une nouvelle année, au lieu où ils étaient déposés, et le même messager céleste me les remit avec cette consigne, que j'en serais responsable, que, si je les perdais, par insouciance ou négligence, de ma part, je serais retranché, mais que si j'employais tous mes efforts à les conserver jusqu'à ce que lui, le messager, vînt les réclamer, il serait protégé. Je découvris bientôt la raison pour laquelle j'avais reçu la consigne si stricte de les garder en sûreté, et pourquoi le messager avait dit que, quand j'aurais fait ce qui était exigé de moi, il les réclamerait. En effet, aussitôt que l'on sut que je les avais, les efforts les plus acharnés furent déployés pour me les enlever. On eut recours dans ce but à tous les stratagèmes qu'on pouvait imaginer. La persécution devint plus violente et plus acharnée qu'avant, et des multitudes étaient continuellement aux aguets pour me les enlever, si possible. Mais par la sagesse de Dieu, ils restèrent en sécurité entre mes mains jusqu'à ce que j'eusse accompli par eux ce qui était requis de moi. Lorsque, selon ce qui avait été convenu, le messager les réclama, je les lui remis. Et c'est lui qui en a la garde jusqu'à ce jour, 2 mai 1838. On trouvera le récit complet dans Joseph Smith, Histoire, dans La Perle de Grand Prix et dans History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Histoire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, volume 1, chapitre 1 à 6. Les annales antiques, ainsi sorties de la terre comme la voix d'un peuple parlant de la poussière, et traduites en langage moderne par le don et le pouvoir de Dieu, comme l'atteste la voix de Dieu, furent publiés pour la première fois en 1830 sous le titre anglais « The Book of Mormon ».